Pour commencer, entamer cette dernière conférence de la journée qui est consacrée, donc toujours dans le cadre de la journée Award, et qui est consacrée cette fois-ci à un élément un peu plus grand public, à savoir les adaptations ludiques de l'œuvre de Ward, et principalement de Conan, son personnage le plus emblématique. On va parler jeu de plateau, ce soir on va parler aussi jeu de rôle, on va parler du rôle que peut avoir le consultant comme moi sur ce type de jeu. Et je vais d'abord, donc moi je ne vais pas me présenter puisque maintenant vous commencez à trop me connaître, mais je vais laisser mes petits camarades de jeu se présenter, à commencer à ma gauche par Franck.
Oui, bonjour à tous. En fait, c'est Léonidas Vesperini de Monolith qui devait être là aujourd'hui, mais qui est empêché, malheureusement. Je vais donc le remplacer vite fait, bien fait, sachant que je ne fais pas partie de Monolith officiellement, je tiens simplement à le dire. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent parce que, en fait, j'écris généralement des petits trucs sur le site Robert Howard sous le pseudonyme de Palantides. J'interviens aussi sur Trick Track, qui est un forum de joueurs, et puis The Overlord maintenant, qui est le forum dédié au jeu Conan de Monolith. Donc voilà, si vous voyez quelqu'un signé Palantides, c'est moi. Voilà, donc je vais essayer de répondre aux questions éventuelles et un petit peu d'apporter des éclairages sur l'adaptation du jeu, parce que j'ai travaillé en fait pour Monolith sur ce jeu aussi, en partie. Donc j'ai quelques connaissances du sujet, même si je ne suis pas Léonidas Vesperini.
And I'm Chris Birch, the publisher, editor of Modiphius Entertainment, that we're producing the Conan Adventures in an Age Undreamed Of role-playing game, which was on Kickstarter early last year and created about 20 or more books. It's just starting to come out now in the next couple of months.
Je suis Chris Birch, le président de Modiphius, qui a fait plusieurs jeux de rôle. Il y a une vingtaine de livres et le jeu de Conan. Et j'ai participé à plusieurs Kickstarter.
Donc, je dirais que ce qui est assez intéressant et ce qui fait l'originalité de ces deux projets, c'est le fait que pour la première fois depuis qu'il existe des jeux, des produits dérivés ou quoi que ce soit tirés ou adaptés de l'œuvre de Robert Howard, c'est la première fois que dans les deux cas, les deux firmes qui sont à l'origine de ces projets ont cherché très clairement à s'inspirer et à rester fidèles à l'œuvre de Robert Howard. Et pour ça, donc, ils ont fait appel à moi. Donc, dans le cadre de Monolith, c'est arrivé il y a très très longtemps. Les premières discussions remontent, je crois, à 2009 ou 2010. Donc, ça a maintenant 7 ans. Et j'ai été contacté par ces gens que je ne connaissais pas lors d'un déjeuner organisé par mon éditeur de l'époque, Rajlon, et qui me disent, ben voilà, en fait, ces gens-là veulent faire un jeu de plateau. Et ils ont besoin de conseils. Donc on a eu un premier repas, et donc Léonidas était là. Et voilà, j'encontre tous ces gens-là. Je ne suis absolument pas issu du milieu du jeu, je n'ai jamais joué à un jeu de rôle de ma vie, maintenant j'ai joué à des jeux de plateau, mais pas beaucoup. Donc c'est vraiment pas du tout mon univers, je n'y connais strictement rien. Et là ils me disent, ben voilà, on va faire un jeu de Conan, mais on voudrait que ce soit fidèle à Ward, et donc on veut faire, on veut qu'il y ait Conan et Red Sonja. Là, je leur dis non, désolé les gars, mais ça va pas se faire parce que Red Sonja n'est pas un personnage créé par Robert Howard. Ah bon ? Et donc, du coup, sont commencées de grandes et longues discussions sur comment est-ce qu'on va faire et le long chemin qu'il fallait pour arriver à expliquer à tous ces gens-là toutes les distinctions, les différentes versions de Conan. Fred Henry, le concepteur du jeu, lui a grandi avec les bandes dessinées Marvel des années 70, qu'on peut aimer ou pas aimer. Moi, j'aime beaucoup personnellement, mais qui ne sont pas Howard. Il y en a qui ont commencé par le film d'Emilius, que je trouve un excellent film et qui n'a absolument rien à voir avec Robert Howard. Bref, ces gens-là, ce qu'ils voulaient, c'est ils avaient compris que depuis des années, dès qu'on faisait quelque chose qui était soi-disant fidèle à Howard et qui ne l'était pas, la plupart de ces machins ne marchaient pas. Parce que tout le monde disait, mais Conan, c'est vachement simple, Conan. Et pourtant, tous ceux qui ont essayé de le faire se sont tous lamentablement plantés. Et là, ils disent, ce qu'on va faire, c'est vraiment qu'on va chercher à respecter l'œuvre au pied de la lettre, ou en tout cas, pour autant qu'on puisse le faire pour un jeu de plateau. C'est ce qu'on va tout à l'heure aborder avec Franck. Alors je leur ai posé mes conditions, je leur ai dit c'est très simple, si c'est moi c'est comme ça, et c'est pas autrement, si je vous dis que ça marche pas, c'est que ça marche pas, il faut vraiment que vous ayez confiance en ma parole. Voilà ce qu'a écrit Howard, voilà ce qu'il n'a pas fait. Et de mon côté, mon rôle va consister à vous aider, à vous fournir le matériel, documentation, aider les artistes, vérifier que tout est conforme aux œuvres. Et ils ont dit, banco, on y va. Il y a eu une longue pérégrination de ce jeu. À un moment, il n'était plus du tout question d'être fidèle à Howard. Et là, j'ai dit, bon, ben, désolé les gars, je vous dis à bientôt, mais voilà, je vous avais dit que moi, si c'est fidèle à Howard, je suis là. Si vous n'êtes pas fidèle à Howard, et quelle que soit la somme d'argent en jeu, je ne resterai pas. Donc je suis parti. Un an et demi après, le jeu est redevenu fidèle à Howard et il est rentré en production à ce moment-là avec l'histoire du Kickstarter que vous connaissez peut-être, un Kickstarter de folie, puisque l'objectif de Monolith était de lever, je crois, 700 000 ou 800 000 dollars.
C'était moins que ça. C'était bien moins que ça. En fait, ils espéraient lever 700 000, mais ils étaient à moins de 100 000 sur le financement. Ils étaient autour de 75 000 pour pouvoir essayer d'éditer quelque chose. Ils souhaitaient 75 000.
Donc ils souhaitaient 75 000, ils ont mis le machin donc en total avec une espérance d'arriver à 700 000 sur le mois de financement. Le Kickstarter est parti. Deux minutes après, on avait pété les 800 000 dollars. Et donc après, ça a duré un mois. Donc je me rappelle des discussions sur le forum où c'est le ventre mou. On ne faisait que 100, 120 000 dollars par jour. Et on a fini. Donc maintenant, il y a plus de 6 millions, je crois, enfin, avec tous les pledges, etc.
Oui, en fait, pour l'anecdote, le Kickstarter officiellement s'est terminé autour de 3,5 millions de dollars. Et en fait, pour ceux qui sont pas familiers de ce genre de financement participatif, souvent ensuite une période qui s'appelle le Pledge Manager, pendant laquelle vous pouvez répartir l'argent que vous avez investi dans le projet. Et vous pouvez encore venir sur ce projet, c'est-à-dire que le projet n'est pas complètement fermé, ce qui fait qu'au final, Monolith a levé, en tout et pour tout, pas loin de 6 millions de dollars en fait, sur ce jeu.
Donc mon rôle à l'époque, c'était logiquement juste de m'occuper du jeu, donc de les aider. Donc je me rappelle par exemple lorsque Adrian Smith, par exemple, devait illustrer tel personnage, dans les nouvelles de Ward, il n'y a pas assez de description pour pouvoir faire quelque chose qui soit utilisable et travaillable par un artiste. Donc moi, je le renvoyais sur des illustrateurs qui ont influencé Ward, de façon à ce que le projet ait une vraie cohérence visuelle et qu'on respecte au maximum tous les personnages qui n'étaient pas tirés de Ward. Je disais ça, on n'en veut pas. Bref, on n'a jamais un rôle de monsieur loyal qui me plaisait bien. J'étais payé pour faire chier les gens, c'est quand même assez génial, il faut être honnête, hein. Qui ne rêverait pas d'un poste comme ça, et en m'amusant. En fait, je me suis pris au jeu, moi qui ne suis pas du tout un joueur à la base, je me suis vraiment pris au jeu, et au jeu de la communauté française sur TrickTrack, donc le forum qui est dédié au jeu de plateau. Et donc je me suis inscrit sur le forum et j'ai commencé à échanger. Ça m'a permis de pouvoir parler beaucoup de Ward, de Conan, de faire connaître à des gens qui ne sont pas forcément eux des lecteurs l'univers de Ward, sur un fil de discussion d'Internet qui est devenu épique, il n'y a pas d'autre terme. Je crois qu'à la fin, il était impossible de poster sur ce forum, puisqu'il fallait, lorsqu'il y avait quelqu'un qui postait un message entre le moment où vous voulez envoyer le vôtre et qu'il apparaisse, si quelqu'un avait écrit un message entre-temps, il fallait revérifier que, attention, quelqu'un a écrit un truc entre-temps. Et ça allait trop vite. Ce qui fait que parfois, on mettait 20 minutes, et je vous jure que je n'exagère pas, à pouvoir poster une réponse. On est arrivé, je crois, à 60 000, c'est 60 000 postes.
C'est la première fois que le site de TrickTrack, qui est un site spécialement dédié pour ceux qui ne sont pas familiers du monde du jeu de société, c'est vraiment un site dédié aux joueurs, le premier site français pour les joueurs, et notamment donc, dédié aux jeux de société. Et c'est la première fois que le serveur a claqué, en fait. C'est-à-dire que pendant la campagne, il y avait tellement de posts, ce que disait Patrice, quand vous vouliez passer un message, le temps que vous envoyez votre message, il y avait déjà eu 5 pages. 5 pages, pas 5 posts, 5 pages. Tellement il y a eu un engouement autour de ce jeu, de Conan, de ce Conan de Robert Howard. C'est quelque chose de très très particulier, qui est unique pour l'instant dans le paysage du jeu de société français. Hein. C'est quelque chose qui n'avait jamais été vu. Il y a des Kickstarters qui ont fait mieux, bien sûr, hein, en termes d'argent, mais au moment du Kickstarter Conan, ça ne s'était jamais produit. Et ça s'est produit pour ce Conan-là. Et c'était vraiment hallucinant. Je rappelle simplement, pour ceux qui ne sont pas familiers du jeu, enfin, je me permets, on est en train de parler effectivement de l'adaptation d'un jeu, donc qui se joue sur des plateaux, hein, qui sont dessinés, avec des figurines de 32 mm. En hauteur pour donner des créatures un petit peu plus grosses, hein. Mais un humain normal, on va dire, fait 32 mm. Voilà, pour avoir conscience de ce que c'est que de vouloir adapter donc, d'abord une illustration qui est faite d'après les écrits d'Howard, donc par Adrian Smith, qui a été l'illustrateur principal sur ce jeu, qui est un artiste anglais qui bosse énormément pour. Qui fait un peu de BD, mais qui bosse énormément pour le monde du jeu. Alors, si je parle de Warhammer et tout ça, ça va sans doute parler à pas mal de gens. Voilà, et donc. il y a les descriptions de Patrice, enfin, telles que les transmettait Patrice, les sélections qui sont faites sur les textes d'Howard. Adrien Smith illustre, alors bien sûr avec sa liberté d'illustrateur, mais en essayant de rester le plus fidèle possible aux écrits d'Howard. Et ensuite, les sculpteurs arrivent derrière pour vous sculpter la figurine de 32 000 mètres, pour pouvoir donc en tirer un personnage qui soit reconnaissable sur un plateau de jeu quand vous êtes à distance de jeu, c'est-à-dire à peu près 50-60 cm. Pour qu'on soit imaginant avec toutes les contraintes de pouvoir identifier un personnage de cette taille-là.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'était ce ping-pong qu'il y avait entre je suis un joueur et je suis un lecteur, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont. Alors, il y a quelques personnes qui appartiennent aux deux univers, mais il n'y avait pas une perméabilité si forte entre ces deux publics, du moins au départ. Et progressivement, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont simplement des lecteurs de Howard qui ont acheté le jeu, certains pour en jouer, d'autres tout simplement pour avoir le jeu parce que l'objet est juste magnifique. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens du forum TrickTrack qui sont mis à acheter les nouvelles de façon à pouvoir avoir ce sentiment d'immersion qui est très important pour les gens qui sont dans le monde du jeu. Moi, j'ai vraiment pris un malin plaisir à intervenir sur le forum. Il y a eu pas mal de créations de blagues récurrentes, les chandeliers, etc., et j'en passe, qui nous font tout le monde rigoler sur ce forum. Ça crée une émulation vraiment très très sympathique et qui s'est répercutée. Alors après, j'ai pas les chiffres pour ce qui est combien de lecteurs des romans d'Howard ou des nouvelles d'Howard ont acheté le jeu. Par contre, c'était beaucoup plus simple de faire la démarche opposée. Et lorsque le Kickstarter s'est terminé en février 2015, de mémoire, j'ai demandé à mon éditeur, donc Rajlon, je dis voilà, est-ce que j'aimerais pouvoir récupérer les chiffres de vente sur les Conan sur les deux dernières années, mois par mois, pour voir s'il y a une évolution. Et donc, au bout de quelques semaines, j'ai eu les chiffres en question. Les ventes des Conan d'une année sur l'autre, donc le mois de décembre, on l'a sorti, puisque le mois de décembre, c'est toujours un peu particulier du fait de Noël, les volumes Conan s'étaient vendus à 234% de volume en plus sur la période donnée, donc sur plusieurs mois. C'était, comme disait le comptable, il dit oui, c'est une donnée très significative, je me rappelle du truc. Donc ça veut dire que voilà, il y avait eu quelque chose qui s'était passé, et ce quelque chose, c'est quelque chose que moi je recherche, c'est de faire en sorte que en dépit de ma réputation de puriste, j'ai aucun problème avec les adaptations, les pastiches, etc., à partir du moment où on sépare bien ce qu'on fait et qu'on respecte au maximum, en tout cas l'esprit de l'œuvre originale. Maintenant, est-il possible d'adapter, de transcrire totalement à 100% une œuvre littéraire dans le cadre d'un jeu de plateau pour commencer? Ben non, par exemple. Tout à l'heure, on citait l'exemple des figurines. Donc lorsque j'ai discuté avec Léo qui montrait les prototypes pour les figurines de Bélite, je disais mais non, c'est pas possible, ce personnage là peut avoir cette lance là parce que c'est pas possible, ça correspond pas au personnage. Et donc là, Léo lui m'expliquait que voilà, il y avait des contraintes qui étaient nécessaires et qui sont liées à la nature même de ce qu'est un jeu de plateau. Et c'est là qu'était moi, mais j'avais pas de problème par rapport à ça une fois que je l'ai eu compris, puisque c'est dans la nature même d'un jeu de plateau d'avoir des figurines identifiables, comme tu le disais.
Oui, il faut qu'elles répondent à, on va dire, certains impondérables, mais qu'elles aient des petites gimmicks, comme on dit, parce qu'il faut savoir que toutes ces figurines sont ensuite réalisées en plastique injecté. Hein, donc, en termes de finesse, c'est très très compliqué de rendre le détail de certaines armes, de certains vêtements ou d'objets pour y avoir des personnages de 32 mm. Voilà, il y a toute cette complexité-là qui fait qu'on est parfois obligé un petit peu d'exagérer ou de rajouter des petites choses qui peuvent déroger à une adaptation strictement littérale du texte. Mais c'est pour le bien de la cause, parce que là, c'est très très compliqué de venir faire exactement ce qu'aurait dû écrire Howard. Sachant qu'Howard n'est pas toujours non plus très très précis dans toutes les descriptions qu'il peut donner d'un personnage. Il peut insister sur certaines choses plus que d'autres, mais il ne vous fait pas toujours une description à la lettre de la personne, de ses cheveux jusqu'à la pointe de ses pieds. Quoi.
Et donc on se retrouve en février 2015 avec un petit monde de l'industrie ludique qui sort du Kickstarter Conan sous le choc, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, ou avec 4 millions de dollars, je crois que le dernier jour ça a pris 1 500 000, le compteur me servait de ventilateur tellement ça allait vite, et c'était vraiment impressionnant. Et ma constat, c'est qu'effectivement, cette volonté de Fred Henry de faire, voilà, on fait un truc qui est fidèle à l'œuvre d'Howard, le pari avait fonctionné, et il avait fonctionné méchamment. Et en plus, on s'était tous amusés à faire ce projet. Donc là, évidemment, ça a commencé à changer la donne, et puisqu'il y avait d'autres projets, évidemment, Conan qui était en développement, et en particulier, il y avait une jeune compagnie, Modifius, qui était en train de développer un jeu de rôle Conan, quelque part dans les brumes londoniennes. Et le monsieur à mes côtés, Chris Birch, était à l'époque en train de développer le jeu de rôle. Et donc là, évidemment, la campagne Kickstarter du jeu de rôle, du jeu de plateau Monolith arrive, boum, on arrive à 4 millions de dollars. Et là, la question que j'ai envie de poser à Chris, d'abord, c'est de nous raconter un petit peu la naissance et comment il en est venu à vouloir adapter Conan en jeu de rôle, et surtout l'impact de la campagne Kickstarter de Monolith. Est-ce qu'elle a eu un impact réel sur le développement de son jeu de rôle? Et dernière question, si Jean-Luc arrive à tout traduire, c'est pourquoi après encore Luminé qui revient encore.
Une petite précision juste pendant que Jean-Luc traduit, pour ceux qui ne sont pas au courant des chiffres. Donc effectivement, Monolith a levé 4 millions de dollars tout de suite à l'origine. Ça représentait à peu près 16 000 personnes qui ont investi de l'argent par moyen Kickstarter. Et à peu près, pour donner une idée, il y avait 4 000 Français. Ce sont quand même les Américains qui aident le plus sur ce projet. Il y avait quand même 4 000 Français, ce qui était complètement hors norme, encore une fois.
I wanted to do a new Conan role-playing game because there's been a lot of role-playing games with pointy ears and dwarves and not enough swords and sorcery. And I grew up with Conan, John Carter, Thongor, a lot of the early swords and sorcery novels as a kid.
Donc j'ai voulu...
J'ai voulu commencer parce qu'il y avait beaucoup de jeux avec des trolls et des nains, et moi j'avais beaucoup joué soit à des jeux de Sword and Sorcery, j'étais un fan de John Carter, etc. Et donc j'ai voulu développer Conan et le Sword and Sorcery.
And I felt that it was time to do a really authentic Conan, that we went back to the original material and started again and established a real Conan role-playing game that was as true to Robert E. Howard's writings as possible.
Et donc j'ai voulu qu'on revienne à un jeu de Conan, à un jeu de rôle de Conan qui soit vraiment authentique et qui revienne aux origines des nouvelles de Howard, et donc qu'il soit vraiment quelque chose de très très authentique avec les bases.
And so we enrolled Patrice and also another scholar, Jeffrey Shanks in America, who are both very renowned for their work, because when you're creating the role-playing game, you can't just take it like the board game. Whilst it has issues to take Conan into a board game, a role-playing game has many holes that need to be filled.
Donc c'est pour ça que nous avons recruté Patrice Louinet et un expert américain qui est Jeffrey Shanks. Et donc c'est parce que lorsque on fait les contraintes entre un jeu de plateau et un jeu de rôle sont très différentes, parce que sur le jeu de plateau c'est plus simple, alors que dans le jeu de rôle il y a beaucoup de points qui restent en suspens et auxquels il faut répondre au fur et à mesure.
So when we're filling in the storyline about the different regions, the maps of a city or where the cities are, there was a lot of work with Jeffrey and Patrice doing a lot of research, a lot of reading, so that when you read the book, you think Robert E. Howard made these decisions, not some guy, a writer. But as much as possible, we've tried to back up every decision, every new piece of information in such a way that you think, okay, that's what Robert would have written.
Donc lorsque vous faites les plans pour les différentes régions, pour les différentes villes, etc., vous savez qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par l'auteur, par Howard, et vous, quand vous devez ensuite boucher les trous, il faut le faire d'une manière avec les experts qui soit suffisamment précise et dans l'esprit de ce qui avait été fait pour vous dire que l'auteur lui-même aurait été d'accord.
And so I think that helped a lot when we came to do the Kickstarter, because our message was very strong about us caring a lot about the Conan story, that we wanted to tell the true Conan story. And so it was a huge success, not as big as Monolith, but still very big for us, you know, 460,000.
Donc, je crois aussi que ça a été d'une grande aide pour nous lorsque nous avons fait notre propre Kickstarter, d'avoir décidé que ce serait très fidèle à l'œuvre, et ça a été un succès, bon, pas aussi important que celui de Monolith, mais quand même, nous avons récolté 460 000 livres.
Not so much in euros now.
Pas autant en euros aujourd'hui.
And because we're working together at the same time, we can create crossovers. So we're creating one book, which is a role-playing adventure with maps for use in the Conan board game, with scenarios, new scenarios for the Conan board game. So if you're a fan of the board game, you can buy the book to play new missions. If you're a role-playing fan, you can buy the book, but you can also play the board game.
Ok, donc comme ils travaillent ensemble, ils font des crossovers, ce qui fait que vous pouvez acheter le livre avec les aventures d'un côté. Si vous êtes un fan du jeu de plateau, donc vous pouvez lire le livre et vous avez des aventures. Et si vous êtes un fan du jeu de rôle, là aussi, vous pouvez, ça peut y répondre.
Et on peut même utiliser les cartes.
Et on peut utiliser, donc les cartes sont aussi bien pour le jeu de rôle que pour le jeu de plateau.
Yes.
Moi, j'ai une question pour Chris, qui vient de nous expliquer que voilà, il voulait revenir au texte original de Robert Howard. Mais cette décision, elle était déjà là avant le Kickstarter de Monolith, ou alors est-ce qu'elle est venue, cette volonté de rester fidèle à Howard, ou alors est-ce qu'elle est vraiment venue avant ou après le Kickstarter et le succès de Monolith?
When we came to present the ideas, I know when we were pitching for the license a few years ago, I knew that the miniature, the board game, was going to go to a different company, and part of our pitch was to do a very authentic Conan, because I don't think it had really been done very well before. There was a lot of pastiche.
Donc, lorsqu'il avait eu cette idée, il savait déjà que le jeu de plateau, la licence du jeu de plateau, irait à une autre compagnie. Donc, lui voulait aussi rester extrêmement fidèle aux idées originales pour.
Always for me, I want to go back to the original. I don't want to use pastiche.
Voilà. Donc, il voulait vraiment rester fidèle aux idées originales. Il ne voulait pas utiliser des pastiches.
Je vais juste apporter une petite précision pour encore une fois ceux qui ne sont pas forcément familiers du jeu, mais il y a peut-être des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Mais j'ai une petite historique là-dedans, donc une petite précision. On va voir ce que dit Chris Birch. Évidemment, le jeu qu'ils ont développé sur Conan n'est pas le premier jeu de rôle qui existe, qui a été fait avec le personnage de Conan. Il y a déjà eu des jeux antérieurs. C'est le premier, par contre, qui est fidèle à Howard. Il existait déjà donc du Conan qui a été fait dans le sillage des films, du film de Milius notamment, avec le jeu de rôle Donjons et Dragons, qui, je pense que ça va parler à tout le monde. Il y a eu des modules de Conan qui ont été spécifiquement créés donc, pour jouer avec le système Donjons et Dragons. Il y a ensuite eu un jeu de rôle générique qui va parler à tout le monde, qui s'appelle peut-être, enfin tout le monde, tous les joueurs, en tout cas, GURPS, qui avait eu un livre spécialement dédié à Conan et qui a eu la particularité d'être traduit en français et qui a eu une très très grosse popularité pour les joueurs parce que c'était vraiment le bouquin de référence pour ceux qui voulaient jouer du jeu de rôle dans le monde de Conan. Alors évidemment, ça brassait large, hein, là on n'est pas sur du pur Howard, ça brassait très très large, mais bon, tous les joueurs connaissent ce GURPS Conan parce que vraiment il a fait date. Voilà. Puis ensuite, il y a eu l'édition Mongoose Publishing, qui a été quand même un suivi pendant plusieurs années, alors pas en français malheureusement, en anglais uniquement, mais qui a été quand même une gamme Conan qui était très très développée avec avec beaucoup, beaucoup de suppléments qui couvraient énormément, énormément de choses. Ça serait d'ailleurs très, très intéressant. Enfin, si Chris Birch peut essayer de... S'il connaît, bien sûr, je suppose qu'il connaît l'édition en août, mais ce serait intéressant de savoir si, et comment il souhaitait se démarquer par rapport à cette édition, éventuellement.
Je ne sais pas avec la musique de France, on peut
lire l'édition dont tu parles.
Mongoose Publishing.
Mongoose Publishing.
Yeah, yeah.
And did you want to be different from that?
Yeah, yeah. We wanted to be very different to previous editions. They did a good job in their own right, but we wanted to be much more authentic, to strip back a lot of material that had been created. It's a tricky thing, because by making a role-playing game, we're making pastiche. But wherever possible, anything new, we want it to feel genuine, so that if Robert E. Howard was alive now, he would have written it, if possible. It's always hard, but I felt the previous editions had gone quite far from the original concept, and I mean, we're always going to say ours is best, but we just try to be more genuine and think very hard about what is the real message behind Conan, the brutal sword and sorcery story.
Non, je voulais dire un truc, mais il faut traduire, effectivement.
Donc, il voulait effectivement être très différent, de ce qu'ils avaient fait. Mongood avait fait un bon job, mais on restait dans le domaine des pastiches et de quelque chose de différent. Nous voulions revenir à l'œuvre originale de Howard, bien que lorsqu'on fait un jeu de rôle, évidemment, on se retrouve soi-même, malgré cette volonté, en train de faire son propre pastiche. Mais donc, ce qu'on voulait, c'était faire quelque chose de différent et qui puisse, dont on se disait qu'il faudrait que, si Howard le voyait, il pourrait l'approuver.
Oui, alors moi, je...
Un, deux. Mon travail, moi, sur le journal, principalement, c'était de relire tout le texte qui était fait. Donc il y avait des citations de nouvelles de Howard, à chaque fois je disais attention ça c'est bien, attention c'est pas de tromper de machin, tel truc, etc. J'ai chopé quelques références à Sprague de Camp plusieurs fois. Donc, alors il y a un tel bagage sur l'univers conanesque que tous les gens qui sont dans le jeu de rôle connaissent les bandes dessinées, etc., les textes, et ils n'ont pas forcément les bons textes. Et donc du coup, mon travail était extrêmement complexe puisque je devais lire. Donc la partie Howard était facile. Quand c'est un terme qui a été créé par Howard, je l'ai tellement travaillé, j'ai tellement travaillé ces textes que je le sais par cœur. Donc ça c'était facile. La partie complexe était lorsque je tombais sur un nom qui n'était pas un nom de Howard, et est-ce que c'est un nom qui a été créé par les gens du jeu de rôle ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont piqué à un pastiche précédent. Donc grosso modo, je tolère, entre guillemets, le pastiche à partir du moment où il a été créé pour le jeu de rôle, et dès qu'il s'agit d'un pastiche de pastiche, là je dois éliminer. Ce qui, l'art de rien, est un travail assez complexe. Donc du coup, j'ai tout passé à la moulinette, j'ai éliminé quelques références, il y avait du comics, il y avait du Jordan, il y avait des choses comme ça, qu'il fallait systématiquement éliminer. Alors Chris disait que le final, donc vu qu'on est obligé dans la nature même d'un jeu de rôle de combler, d'écrire du matériel, il dit que voilà, Howard aurait écrit ça. Donc moi je pense que ça va dépendre véritablement des auteurs, mais mon rôle à moi était de leur dire oui c'est bon, alors je ne sais pas si Howard aurait écrit ça, mais je peux vous dire qu'il n'aurait pas écrit ça. Vous voyez ce que je veux dire, moi mon travail il est plus en creux que ça. Voilà, ceci n'est pas une trahison. Vous aimez pas, mais ceci n'est pas une trahison. Et ensuite, ben voilà, donc la liberté créatrice des auteurs était là, et ils ont fait un chouette boulot. Alors, ce que n'a pas encore mentionné Chris, mais c'est la plupart des auteurs, donc des gens qui font des scénarios, sont des fans de Howard. Donc ça aide des gens qui connaissent le vrai matériel. Donc ça aide énormément. Et quand vous avez Jeff Shanks et moi-même qui relisons, globalement, alors je ne vous dis pas que sur les centaines de paragraphes qu'on a épluchés, il n'y a pas un petit truc qui est passé à travers les mailles du filet, mais ça n'ira pas plus loin que ça. On a vraiment un produit dérivé qui est fidèle
à l'œuvre de base, et surtout ce qui est encore une fois moi une des choses qui font que je peux m'intéresser à ce genre de projet, c'est qu'à chaque fois quand vous lisez ou quand vous avez le jeu de plateau ou le jeu de rôle, vous avez d'après l'œuvre de Robert E. Howard et ça vous renvoie aux nouvelles. Vous avez aimé le jeu de rôle, lisez les textes. Vous aimez les textes, jouez au jeu de rôle. Et ça c'est la première fois depuis l'histoire. Regardez, les gens qui sont fans de Lovecraft, la chance qu'ils ont. Parce que depuis très longtemps, si on aime l'appel de Cthulhu, on peut jouer à l'appel de Cthulhu. On sait que c'est deux choses séparées, on peut aimer ou pas l'adaptation, mais ce n'est pas une dilution d'une adaptation ou d'adaptation. C'est un produit. Et après, le suivant, le produit dérivé suivant, ne sera pas basé sur le produit dérivé, mais sur l'œuvre originale. Sur Howard, c'était quelque chose qu'on n'avait pas. Parce qu'on avait des comics, des machins, etc. Et il fallait avoir l'épée qui traverse son Conan et toutes ces horreurs qui ont été amenées par des couches successives d'adaptations, de déclinaisons commerciales plus ou moins foireuses. Plus foireuses que moins pour la plupart d'ailleurs. Donc là, pour la première fois, on a un produit dérivé dans lequel vous avez des gens qui sont des amateurs de Howard, des gens assez... Qui se prennent assez au sérieux, comme moi, etc., qui ont des prétentions littéraires sur l'œuvre howardienne, et qui disent, voilà, là on a un truc, c'est pour s'amuser, mais c'est bon, on est derrière, on appuie à 100% et on y collabore. C'est vraiment quelque chose de nouveau.
Oui, enfin, c'est vrai que sur le... Je ne veux pas trop vous apesantir, mais c'est vrai qu'il y a deux petites choses différentes. Autant le jeu de plateau a un aspect très fini, vous êtes sur des environnements qui sont dessinés, arrêtés, des figurines, sculptées, soit pas toutes, vous êtes toujours dans un univers, vous avez différents scénarios, puis c'est un jeu de position sur lequel les gens s'affrontent, après bien des mécaniques propres. Le jeu de rôle est bien différent, parce que, comme le disait Chris Birch, il faut combler les vides. C'est-à-dire un auteur, même un auteur qui a éminemment décrit son univers, Tolkien, par exemple, il restera des vides à combler sur un jeu de rôle qu'on pourrait faire sur l'œuvre de Tolkien. Donc, par essence, effectivement, c'est tout le côté très très difficile à concevoir dans un jeu de rôle, c'est de remplir ces vides sans trahir l'œuvre, ou essayer de la trahir le moins possible, puisqu'il y aura nécessairement trahison dans la mesure où un jeu de rôle veut couvrir un univers complet, ce qui, par essence, n'est jamais fait par un auteur, même un auteur, encore une fois, qui va décrire un univers qu'il aurait créé de manière très très précise, il n'y aura jamais tout, vous ne pourrez jamais tout recréer. Donc, voilà, c'est un petit peu la complexité, et ce qui va différencier un jeu de rôle d'un jeu de plateau beaucoup plus arrêté, je dirais, quelque part.
Bon, Chris Birch, maintenant, voilà, on est le 9 avril, il est où ce jeu de rôle Conan ?
We've just sent out the Conan role-playing game to the printers, one of the first books, Conan the Thief, Adventures, the first Adventures book, and also the Player's Guide. So, the Adventures book is called The Jeweled Thrones of the Earth. So those first four books have gone to the printers, and we have another three plus the Games Master screen lining up to go into preview and final editing next. So, but we have 20 books coming. And I'll keep going.
Donc, les quatre premiers livres sont partis chez l'imprimeur. Donc, Conan the Thief,
Thrones of the Earth.
Donc, les bijoux, le trône de la terre.
Les trônes constellés de joyaux de la terre.
Les trônes constellés de joyaux, d'accord. Donc, les quatre premiers livres sont partis, plus, you said.
Another three or four books coming next.
D'accord. Il y aura trois ou quatre autres livres qui vont arriver, et au total, il devrait y en avoir 20.
So, these will go to backers through May and June, and we're aiming for a public release, I think, in July, maybe late July, because we have to make sure the backers get it first, otherwise I'm going to be...
Ok, donc ils espèrent avoir le retour pour le mois de mai, et donc la mise en vente publique au mois de juillet.
Mm-hmm. And then we have, like I said, 20 books coming all the way through, including the Monolith crossover, Cull of Atlantis, and also crossovers with Age of Conan and Conan Exiles, the new video games.
Donc 20 livres au total, plus un crossover avec le Conan de Monolith. Il y aura aussi Kull. Voilà.
Age of Conan.
Et aussi Age of Conan.
Yeah.
On va passer maintenant aux questions. Si vous avez des questions, discrètes, indiscrètes, intéressantes, on vous écoute.
On a été limpide. Ah, voilà.
C'est pour Patrice, plutôt. Comment vous validez ou ne validez pas plutôt les descriptions géographiques ? On voit bien le fleuve du Tonnerre, on voit bien l'Aquilonie, mais comment valider Hyrcania, Kitaï ?
Voilà, c'était le fondateur. Je prenais mes précautions en avance quand je disais mon travail est un travail de vérification en creux. Je ne peux pas dire que voilà ce qu'il aurait écrit, je peux juste dire ça, il ne l'aurait pas écrit, entre guillemets. Donc, en fait, ce sur quoi je me base, c'est simplement par rapport à l'ensemble des éléments dont nous disposons. Alors, il faut savoir que chez moi, mes fichiers Howard sur mon ordinateur, j'ai fait un calcul il y a quelques jours, ça je le dis, je dépasse 50 000 fichiers. Fichiers, je dis bien. Donc, tout ça, c'est évidemment, je peux aussi indexer, je peux rechercher, etc. Donc, les Conan, par exemple, toutes les pages, tous les brouillons, tout y est, tout est rentré, donc je peux tout chercher. Donc si je veux savoir combien de fois Howard a employé le terme spider dans son œuvre, je peux l'avoir en 3 secondes. Donc évidemment, pour Conan, j'ai ça. Donc dès qu'il y a une description pour un machin, donc je tombais sur Kitaï ou n'importe quelle région, l'Hyrcanie, je fais une recherche de toutes les occurrences du terme dans l'œuvre entière, y compris les brouillons. Alors, je copie, je fais du copier-coller pour avoir une sorte de document qui soit, qui ait une sorte de cohérence. Et ensuite, j'envoie ça, quand si besoin, à l'équipe des gens qui font, par exemple, la carte. Et un exemple qui est assez frappant, c'est la fameuse route des rois. Donc, c'est la route des rois qui est une route qui est mentionnée, qui apparaît. Il apprend de la route des rois dans le roman L'Or du Dragon. C'est tout ce qu'il y a. Question, c'est, mais la route des rois, est-ce que c'est une vraie route ou est-ce que c'est un surnom comme ça ? Est-ce qu'elle a servi ou pas ? Et donc, du coup, question de l'équipe de Modifus qui me dit, alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette route des rois dans tel bouquin, etc. Et là, en fait, ils m'ont posé la question et il se trouve qu'en faisant des recherches dans les brouillons du roman, on a trouvé plein de descriptions de cette fameuse route des rois qui était là dans les versions antérieures, qui ont disparu au fur et à mesure des réécritures, et nous, on s'est simplement servi de la version brouillon pour arriver à voir une sorte de route des rois. Alors, c'est pas celle de Howard, puisqu'elle n'apparaît pas dans la version publiée, mais en tout cas, c'est une route des rois que lui avait conçue dans sa version brouillon. Alors, ça veut pas dire, donc on est bien d'accord, on reste au maximum dans l'esprit howardien. Et mon travail. Et en fait, j'ai exactement le même rôle sur le jeu de plateau de Monolith. À un moment, je reçois un coup de fil de Léo qui me dit « Ouais, il nous faut un nécromancien. » Je dis « Ok, d'accord. Donc, ok. Comment est-ce qu'on l'appelle ?» Là, je recherche. Il n'y a pas de nécromancien ils sont rares, quoi. J'ai dit « Attends, il y en a un dans cette nouvelle-là. » Et je recherche le truc. Et poum, le gars, il n'a pas de nom. Et je dis ok, alors Léo me dit c'est pas grave, on va inventer un nom. Alors, je dis surtout pas parce que ça me hérisse. Et donc là, vous connaissez, je suis un peu sanguin, sur le nom inventé chez Conan. Et bien là, j'ai été gratté dans une première version d'une nouvelle où il y avait un personnage qui s'appelait Scutus, le Necromancer. J'ai dit voilà, dans ce brouillon de telle nouvelle de Conan, il y a un Scutus. Ça n'a jamais été employé nulle part, ça a été dégagé de la deuxième ou troisième version du brouillon, mais c'est bon, le nom c'est Howard. Tiens, et dans le jeu de plateau, le nécromancien est devenu Scutus. Voilà, donc il n'y a pas de règle absolue, entre guillemets, il n'y a pas de bonne réponse. S'il me dit qu'il y a une colline, Howard ne dit pas la colline elle est super ardue, ou alors c'est en pente douce, ok, bon, dans ces cas-là on fait une colline. Peut-être qu'elle sera ardue, peut-être pas, mais je ne pense pas que ce soit une véritable trahison, en ce sens qu'on ne s'oppose pas. L'idée, c'est de ne jamais s'opposer à quelque chose qui est écrit dans l'œuvre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Justement, par rapport au supplément, enfin, tout ce qui est description des cartes, surtout dans le jeu de rôle, enfin, des régions, comme il y a eu un travail qui avait été fait sur la version de Mongoose avant, par exemple, avec Vincent Darlage, sur notamment la Stygie, et il travaille aussi, je crois, sur le projet de jeu de rôle. Est-ce qu'il a repris, comme il a déjà travaillé sur un premier projet là-dessus, est-ce qu'il a repris des éléments existants de la version de Mongoose sur les régions qui sont un peu vagues, justement, qui ne sont pas particulièrement décrites dans Howard?
Non, justement, on est resté sur la partie Howardienne dans laquelle on reste fidèle à Howard. Mais la carte a été un cauchemar. Hein. Parce qu'à chaque fois, je dis aux gens, bon, les gars, attention à la carte, ça va être la galère. Et ça a été la galère avec Monolith, ça a été la galère avec Modifius. Donc à chaque fois, il y a toujours un des collaborateurs qui est super content. Ouais, j'ai trouvé une méga chouette carte, elle est super jolie, avec plein de couleurs. Et poum, il prend un machin dans lequel il y a toutes les villes de Sprague de Camp, celle de Robert Jordan. J'ai dit, bon, écoute, désolé, mais ça passe pas. Ok, d'accord, tu me dis ce qu'il faut effacer, on passe ça à Photoshop. Alors, je dis, OK, première version, et là, je dégage 80 noms. Je dis, deuxième version, je redégage 80 noms. Et à la fin, il leur reste un truc avec 4 noms et demi. Donc, parce que Howard n'a jamais systématisé son univers. Donc, on a galéré vraiment comme des malades. Donc, du coup, à la fin, on arrive à faire un truc dans lequel on a dégagé tous les noms qui n'étaient pas des noms tirés de nouvelles de Howard. On a pris la carte, on a gardé tous les noms sur une carte qui était correspondait à ceux de Howard, et l'équipe, alors là, c'est pas moi qui le fais, mais c'est l'équipe de Modifius, tous les gens qui travaillent sur le jeu, donc Jason Delore, etc., donc des gens que vous connaissez pas, qui ont été, en relisant les nouvelles, ils ont récupéré des noms de villes qui n'apparaissaient pas sur les cartes. Et donc, ils ont mis ça, et du coup, après, mon travail et moi, consistait simplement à regarder, et à dire, OK, ça c'est bon, on garde pas, mais on la carte, on a fait, mais je crois, 10 allers-retours. C'était une horreur.
Une autre question ? Ouais, encore une. Oh, oh bah. C'est gratuit encore.
Là, c'est pour Chris, à l'annonce du starter et surtout du supplément Edge of Conan, qui appartient à la communauté française de Edge of Conan. Et les attentes sont grandes. Ah, ça fait rêver. On va tout jouer des prêtres de Mitra, des héros de Zopi, ou je ne sais quoi, des tempêtes de Set. Donc, on attend vraiment ces classes-là. Est-ce qu'il y aura où en est le travail sur ce supplément?
The Age of Conan book, it's in our late second wave, and so there is a team working with Funcom, the video games company, to explore the ideas, and it's obviously a different version of Conan to the main role-playing game, but we realize that some people want to play in that version of Conan, so we're obviously providing the locations and creatures and things that are different to our main interpretation.
Donc pour Edge of Conan, ça fait partie de la deuxième vague de livres. Et ils sont donc en train de travailler avec une autre compagnie,
Funcom.
Donc pour leur donner tout ce qui est créatures, etc. Parce qu'ils se doutent bien qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Donc voilà, ça vient.
Je suis rassuré. Second wave, so it would be
kind of later this year.
Plutôt vers la fin de l'année. Non.
Joyeux Noël.
Et en reprenant la storyline avec le cercle noir et Donamon.
Taking the storyline with the black circle.
I don't know enough about it, but I know that they're going to have the key stories in there for you to explore the plots and the main enemies and things like that. So the point is so that you can play the Age of Conan, the main scenarios, as a role-playing game.
Je ne connais pas tous les détails, mais en tout cas, la trame générale est respectée, donc vous pourrez jouer à Age of Conan avec les héros que vous connaissez.
Okay. Dernière question. Ah, oui.
Vous avez parlé également d'un jeu de rôle Conan Exiles, d'après ce que j'ai compris. Autour de quoi ça portera, sachant que le jeu vidéo lui-même n'est pas vraiment de scénario en fait. Alors, en tout cas, pour le moment, n'est pas très développé.
Est-ce que tu as
Conan Exiles, yes. Yes, so we are doing a crossover book with Conan Exiles in our third wave, so that'll be next spring-ish. And the team, as another team, also working with Funcom on the concept lets you build your settlement, much like the video game. So if any of you know the Mutant Year Zero game where you build a settlement,
oui, là je m'excuse parce que je ne suis pas du tout familier, mais donc apparemment le crossover avec Conan's Exiles, ça fera partie de la troisième étape, donc plutôt l'année prochaine, et vous pourrez bâtir votre propre
settlement, donc une colonie.
Colonie. Yeah.
Une colonie en Iran, je ne sais pas quoi.
Colonie, votre...
So you're going to start with a little settlement. Mm-hmm. And then you're going to be going out into the world and exploring, but you have to keep building your settlement. And as a team, you have to work together. Or maybe like, I want to build the walls. No. I want to build the farm.
Okay.
You know. And so you can grow together. Your settlement is going to be attacked. And so we're following similar way to the video game.
Voilà, donc à partir du moment où vous serez établi, et vous pourrez à la fois explorer le monde qui est autour, mais en même temps, il y aura donc tout un travail d'équipe pour construire et développer la colonie elle-même. Moi, je vais faire les murs, moi, je vais faire ceci, cela, etc. Vous serez attaqué, donc tout le jeu va se développer comme ça.
And I should say that the team who made Mutant Year Zero are the team working on the game, so it's going to share some concepts.
Et donc l'équipe qui a fait Mutant Year Zero.
Oh, yeah.
Voilà, et la même équipe qui fait aussi donc Conan's Exiles.
Bon. Okay.
Une question? C'est derrière.
T'as vu d'autres?
Juste une question franco-française. Est-il prévu des versions françaises? Are they going to be French version?
Oui. we're announcing very soon. Yeah.
Donc ça va être annoncé très bientôt.
Non, ça vient d'être annoncé.
Ah.
Il y aura plus de...
Un, deux. Il y aura plus de détails prochainement, oui. Voilà, quand ça sera...
Une dernière question, c'est bon? Oui, question? Oui.
Back to the roots, why Conan?
Why Conan? Because I couldn't do another Dungeons & Dragons. And like I said, I grew up on Thongor of Lemuria. I know, yeah. John Carter of Mars, and Conan, and... Witch Worlds are very swords and sorcery books for me, not wizards and elves and pixies and dwarves and stuff, which is more recent. It was when I grew up in the 70s, it was all swords and sorcery classics, and or not so classic.
Not a Thongor game.
Yes, only there's only so much you can do.
I think that one of your next project is the John Carter.
Yes.
Game.
Yes. Okay. Yeah, which is also very authentic. We have a Patrice for John Carter, who's a Edgar Rice Burroughs fan. So again, we've gone back to the material and to try to make it as true to the stories.
Et j'ajouterai que hier après-midi, lors de son intervention dans le monde de Lovecraft, à un moment, nous avons eu le privilège de voir les premières photos des figurines de John Carter. C'est très très beau. Hein. Moi, je ne joue pas. J'ai dit à Chris que j'allais commander le jeu.
Juste pour les figurines.
Okay.
J'ai vendu, c'est bon. Bien, mais donc il me reste à vous remercier de votre attention, de vos questions, etc. On espère que cette conférence vous a intéressé, vous a plu, vous a appris des choses, que cette journée Award, la troisième édition de la journée Award aussi vous a contenté. On se retrouve l'année prochaine. Il y aura, je ne dis pas encore quoi, mais ça sera assez énorme. Voilà, ça devrait être annoncé en fin d'année, je pense, pas avant. Nouveau médium, tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bonne fin d'après-midi, à très bientôt. Au revoir.